Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106, toujours pour Radio HDR et Principe Actif. Tous les lundis à 18h, rediffusé les samedis à 10h et écoutable en direct chaque soir de concert sur la web radio du 106, radio.le106.com. On commence l'année avec les interviews de L'Épée, Félixita et Pépite.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Marie, Emmanuel, Anton, Lionel sont face à moi. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes L'Épée, The Liminianas, Lionel et Marie, auxquels on ajoute donc la chanteuse et actrice Emmanuel Seigné et Anton Newcomb du Brian Johnston Massacre, des habitués finalement de la famille Liminianas, puisqu'on les trouve... On vous trouve comme invité sur le précédent disque notamment. On croise à nouveau Bertrand Belin également derrière cette histoire. Et donc cette histoire, elle démarre dans la foulée de l'album précédent de The Liminianas. J'ai l'impression que quand même tout vient de là au départ, avec ce qui devait être un album solo pour Emmanuel Seigné. Emmanuel Seigné, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, en fait, quand je suis arrivée chez eux à Cabestany, ils étaient en train de finir l'album Shadow People. Et ils m'ont dit, dès que je suis arrivée, ils m'ont dit, tu veux pas venir faire un petit tour dans le studio pour enregistrer le morceau Shadow People. Donc je l'ai fait. Et puis après, on a décidé de faire un album ensemble qui au départ devait être un album solo. Mmh. Et après, on a été manger des pâtes et on a marché sur la plage. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, quand on est venu mixer à Berlin... Anton, il a eu l'idée, c'était son idée en fait de faire un groupe.
Dans le studio d'Anton
voilà,
à Berlin.
Voilà, dans le studio d'Anton à Berlin.
Ouais.
Cobra Studio. Et c'était son idée et vraiment j'ai adoré cette idée pour plein de raisons. J'ai adoré cette idée et Lionel et Marie, ils étaient d'accord aussi. Et donc du coup, voilà. C'est comme ça que c'est venu.
J'ai cru comprendre que tout ça vient d'un coup de fil et d'un rêve d'Anton, justement, Newcomb. Est-ce que c'est la vérité, ça ?
Son rêve, en fait, c'était l'histoire de l'épée. He's saying that it comes from a dream from you.
Yes.
But it was, the dream was the sword.
Yeah.
En fait, il a rêvé d'une épée.
The image.
L'image de l'épée. Et au début, il a mis the sword et en fait, il a trouvé que c'était mieux l'épée en français.
Et donc, il vous a appelé à ce moment-là et il vous a dit ?
À 5h du matin, je me rappelle, il m'a envoyé un texto en me disant, j'ai fait un rêve, il faut qu'on s'appelle L'Épée. Parce que ça s'est fait en deux parties. D'abord, il y a eu la partie qu'on fasse un groupe, mais il fallait trouver un nom. Et il a dit, je vais chercher un nom. Et il a donc eu ce rêve et après, il a eu cette idée de L'Épée. Voilà.
Et est-ce qu'il peut nous raconter ce rêve et si ça lui arrive souvent de rêver des choses et ensuite que ça se réalise comme ça ?
Can you tell us about your dream? And if it happens to you often?
Sometimes, you know, I find that when people have pressure to think of a name for their group or something, then the pressure.
En fait, ce qu'il dit, c'est que parfois on pense trop à quelque chose et qu'on a envie de trouver un nom absolument, le cerveau se bloque et on ne trouve pas un nom qui est intéressant. Donc il préfère se relaxer et tout d'un coup, c'est venu dans un rêve et en fait, c'est mieux. Et il voulait trouver aussi un nom qui sonne bien, qui a un sens et qui soit joli visuellement. Donc c'est la combinaison de tout ça avec ce nom de l'épée, en fait.
Et ça a resserré des liens, cette histoire, d'album, parce que vous êtes partis ensemble à Berlin. Ça a resserré des choses ? Est-ce que vous êtes compris les uns les autres un peu mieux ? Est-ce que vous saviez déjà où vous vouliez aller tous ? Comment est-ce que qu'est-ce que ça a construit finalement, cette relation ?
Ça a été un disque facile à faire, en fait, parce que justement, tout a été toujours très simple, on se comprenait tout le temps et on n'a jamais eu, comment dire ça quoi, ça s'est fait par étapes. Au départ on a fait les démos chez moi, les chansons chez moi, on allait finir chez Anton. Quand Anton s'est mis au boulot, à chaque fois qu'il intervenait, moi je trouvais ça de mieux en mieux. Et le disque s'est fait vraiment tout seul, quoi. Donc oui, ça resserrait des liens. Et oui, c'est vraiment pas un projet de maison de disque ou un truc pour l'argent ou que sais-je. C'est vraiment un disque, un groupe qui est arrivé là naturellement, en fait. Pour les bonnes raisons, enfin pour faire de la musique, en fait.
Et quel était le rôle de chacun là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des choses en main plus que d'autres?
Ça s'est vraiment fait par étapes. Hein.
Ouais. Chacun fait sa partie.
Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment, tu vois, on est parti dans l'idée de mixer le disque chez Anton, mais moi je savais qu'Anton allait rajouter des choses parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Et à chaque fois, le disque s'est construit comme ça par strat, mais on n'a jamais enregistré ensemble dans la même pièce, tu vois. C'était vraiment des étapes, d'abord nous dans le sud. Ensuite, Emmanuel qui a enregistré le chant à la maison. Et après, on a fini le disque chez Anton qui, en gros, a rajouté des choses et l'a produit.
Mais y compris l'écriture des chansons. Enfin, ça, c'est...
J'en ai fait une partie, le reste, c'est Bertrand Belin.
Oui, c'est ça. C'est ouais. Bertrand qui a écrit les chansons. Alors, justement, une partie des chansons. Alors, justement, on a parlé, la dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé de la rencontre avec Anton. On a raconté l'histoire de la rencontre avec Bertrand Belin vers l'Australie, en partant vers l'Australie. Donc, je renvoie tout le monde vers l'interview que vous aviez donnée il y a un an et demi à peu près. Mais Emmanuel Seigné, la rencontre, on n'en avait pas parlé. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ah si, si. Oui, parce que vous aviez déjà posé votre voix.
En fait, moi, j'avais découvert leur musique dans Gossip Girl. Et je sais que c'est pas top, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et après, j'ai fait des recherches sur Internet et j'adorais vraiment leur musique. Mais c'était vraiment il y a longtemps, il y a 7 ans comme ça. 7 ans, non? 7-8 ans, parce que je regardais avec ma fille, elle était toute jeune à cette époque. Donc ouais, c'était un bon moment. Et puis voilà, j'aimais beaucoup leur musique. Et un jour, un ami journaliste m'a parlé de... Il m'a dit, ah mais je les connais très très bien, je peux vous mettre en contact et tout. Et en fait, il m'a mis en contact et direct, j'ai pris un avion, je suis allée les voir. Et voilà, c'était comme ça. C'était vraiment mon désir à moi de travailler avec eux parce que j'adorais leur musique.
Et donc là, vous avez réussi à composer ce groupe, l'épée. On sait que vous aimez bien scénariser aussi les disques. On a l'impression qu'il y a aussi une forme de scénarisation dans ce disque-là, des étapes, une histoire qui se raconte. Diabolique, c'est donc le nom de cet album, trépidant, un peu inquiétant. Et là, on entre dans le vif du sujet, une débulation dans un univers très marqué, cinématographique, une sorte de polar noir psychédélique qui nous emmène en Amérique, de la guerre d'indépendance pendant son rituel satanique. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter, quelque chose en particulier avec ce disque-là?
C'était, on l'a organisé un peu comme quand on avait fait l'album qui s'appelait Mal à mort, qui était une suite de chansons qui étaient comme des sketchs à l'italienne avec un personnage récurrent. Et moi, quand j'ai réfléchi au disque, au départ, c'était vraiment un disque pour Emmanuel. Et mon idée, c'était vraiment d'avoir une héroïne, un peu la Barbarella, comme ça, qui vivait des aventures différentes par track. Et on a nourri ces histoires de ce que Emmanuel m'avait raconté les 2 heures où on est resté ensemble l'après-midi. Là.
Ouais, c'est
et je me suis servi de ça et j'ai rien dit à Bertrand. Et c'est marrant, c'est que quand Bertrand envoyait ses textes, ça collait. Je trouve que ça collait carrément à ce qu'on avait déjà imaginé, nous. Donc ça s'est fait comme ça. C'est pas vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est plutôt comme une suite de sketch d'un film à l'italienne des années 60, quoi.
Et vous, Emmanuel Seigné, vous êtes ce personnage qui traverse l'album.
Ouais.
Ouais. Vous saviez, vous êtes rendu compte de ça ou...
Oui, après, c'est une vision assez, en fait, presque cinématographique qu'il a eue. Et c'est comme un personnage que je pourrais incarner.
Quels sont les extraits de films qu'on voit dans le clip de Last Picture Show? Je ne suis pas très...
Les extraits de films? Ah. Non, c'est pas Anton, c'était Bicos, je crois.
Ah, on ne sait pas finalement quels sont les extraits qui sont dans ce... Bon, d'accord. Donc ça, forcément, ça tombe un peu à plat. Et comment elle se passe cette tournée? Là, vous êtes en milieu de tournée.
Oui.
Ça
super
se passe
bien.
Comment la vie
super bien.
Vous vivez quoi? Vous vivez des moments touristiques un peu?
How is the tour? How do you feel about the tour? Are you happy?
Yes. It's, you know... The other night in London, people are so cynical, you know, in the big city, they're like, to everything. And we got done playing and everyone was like, at once, you know, nobody looked, you know, to see, oh, I'll stand up, everybody's standing.
En fait, ce qu'il dit, c'est qu'on a joué à Londres il y a deux jours et c'est vrai que c'est un public assez cynique. Et dès le début, ils étaient vraiment très, très réactifs. À la fin, on a eu une standing ovation. C'était vraiment, ça s'est hyper bien passé. Donc, ça lui a fait vachement plaisir parce que c'est un groupe qui est nouveau. Donc, ça se construit. En fait, les gens, ils ne connaissent pas ce groupe. Que quand il joue avec son autre groupe, bah, les gens, ils connaissent depuis 30 ans. Et il y a eu un film en plus. Donc, du coup, c'est plus facile. Donc, du coup, ça lui fait vraiment plaisir quand ça se passe bien.
Vous vous sentez vraiment, vous ressentez vraiment une entité, un groupe véritablement avec les individualités que vous formez tous,
oui,
là.
Vraiment.
Parce qu'il y a vraiment des personnalités
oui,
qui ont vécu plein de choses.
On vient tous d'univers très différents. En fait.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça qui est bien, d'une certaine manière, parce que. Et puis là, plus on passe le temps ensemble, qu'on dort tous dans le bus, on apprend à se connaître, et donc on est de plus en plus proches. Donc.
Et je crois que vous êtes arrivé à Rouen, enfin même tous, hein, hier déjà, vous êtes un petit peu baladé dans Rouen. Ça permet ça aussi, un petit peu de tourisme en ce moment.
C'est super rare, bah ouais. On n'a jamais de temps pour voir les villes. Mais là c'était cool, on est allé acheter des BD.
Vous étiez ouais, au Grand Nulle Part, la librairie BD
cool,
à Rouen.
Ouais, on était allé au marché de Noël,
ouais.
Manger de la tartiflette, c'était super.
On a eu un bon dîner aussi.
Voilà. C'était cool, ouais.
Bon, j'ai une question qui vous est destinée en dehors de Diabolique pour Zoli Mignanas. Il y a eu une BO, celle du film Le Bel Été, avec Dao notamment.
Et Pierre est là quelque part, le réalisateur.
D'accord.
Je le vois pas.
C'est un film qui raconte, alors bon, on va faire attention à ce qu'on dit, c'est un film qui raconte la vie d'une famille dans la Manche, chamboulée par l'arrivée d'un homme et de ses enfants, si j'ai bien compris, qui fuit la situation politique dans son pays. Comment est-ce que vous l'avez reçu, cette proposition-là?
Nous, on était vraiment hyper flattés que Pierre nous demande ça. Et en étant en tournée à ce moment-là, c'était la période avec les Mignanès, on tournait vraiment beaucoup. Moi, j'avais juste peur qu'on n'arrive pas à trouver le temps d'être à la maison un petit peu en studio pour le faire. Et du coup, c'est un disque, un son particulier, parce qu'il a été beaucoup enregistré et composé dans le camion avec un petit clavier et l'ordi. Donc, il est plus électronique que ce qu'on fait d'habitude. Et ça a été hyper agréable et facile de travailler avec Pierre. J'espère qu'on en fera d'autres. Et on est très fiers du film et de ce que ça donne. Mais c'était émouvant de voir notre musique à l'écran. C'était vraiment vachement... j'étais à la fois gêné parce que j'avais l'impression qu'on le méritait pas, quoi. Et en même temps, on aime tellement le cinéma et les BO de films que voilà, c'est vraiment fort pour nous, quoi.
On avait beaucoup parlé de ça, effectivement, la dernière fois. Le Bel Été, donc, est sorti en novembre, qu'on doit pouvoir voir encore dans quelques salles. Merci d'avoir été avec nous. L'épée au 106 ce soir. Merci encore.
Radio Lomax, l'émission du 106.
On accueille Félixita. Félixita, on prononce comme ça ?
Felicita.
Felicita, à l'italienne.
Exactement.
Bonsoir. La musique de Felicita est née avant tout d'un éveil d'essence, un éveil provoqué notamment par cette chanteuse.
Mon Dieu que je...
Ah ouais, c'est Dalida. Vous nous racontez ces impressions d'enfance qui ressurgissent en partie dans vos chansons aussi ?
D'enfance ?
Ouais. Dalida, ça fait partie des chansons que vous avez, des chanteuses que vous avez écoutées peut-être dans votre enfance un peu, non ?
Alors au début, en fait, j'écoutais pas trop de chanteuses. Non. C'était au collège, j'étais très intéressée par les garçons.
Ah ouais.
Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour leur parler, quoi. Donc j'ai commencé à écouter du rap. Plus de la musique entre guillemets de garçon. Et j'ai appris tous les trucs par cœur quoi, de ces années-là, 2000, pas les meilleurs.
Mmh.
Et après, plus tard, bah, Dalida, quelle majestuosité quoi.
Mmh.
Magnifique. Et puis c'est souvent d'abord les parents, même les grands-parents qui écoutaient ça à tue-tête dans les maisons quoi.
Et puis ensuite, alors il y a effectivement le rap qui va arriver, mais on va peut-être y venir. Il y a la Méditerranée aussi, celle fantasmée chez nous dans le nord, le soleil, la chaleur, les roches blanches éblouissantes, les odeurs de thym, de romarin, de sarriette, la mer pas loin. Et c'est quoi votre sud à vous ? Parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup d'importance.
Mon sud à moi ?
Ouais.
Bah, j'ai la chance d'être née et d'avoir grandi à Nice. Vraiment les pieds dans la Méditerranée. Et bah, c'est les palmiers, quoi. C'est les palmiers, c'est être bronzé toute l'année, c'est plonger, pêcher, rien faire. Rien faire très, très fort.
Mmh.
Faire la sieste, faire des barbecues, jouer à la pétanque, boire des trucs, et puis danser toute la nuit, quoi.
Et alors, parce que voilà, vous vous retrouvez là dans le nord de l'Europe quasiment, au fin fond du Grand Nord. Qu'est-ce que ça fait de venir en terre comme ça, un peu nordique ?
Ben vous savez, moi à partir de Bordeaux, quoi, déjà, c'est frileux. Hein.
Ouais.
Donc là, moi c'est la première fois de ma vie que je viens ici.
Ouais.
Et carrément, j'ai dû acheter des petits habits spéciaux, quoi. Parce que j'avais même pas ça dans ma garde-robe.
Ah ouais ?
Ouais.
Trop de froid, quoi.
Trop de froid, trop de couches. J'ai mis 2 jeans. J'ai fait un nouveau truc ce matin.
Et donc, maintenant, vous êtes prête à monter encore plus au nord, peut-être ça
Ah bah, là. Maintenant, je suis prête à tout.
Ouais, c'est ça.
Ouais, carrément.
Comment elles arrivent, les premières chansons, chez vous ?
Comment elles arrivent, les premières chansons ? J'ai eu un... Je voulais être actrice. Donc, j'ai commencé, j'ai fait des études de théâtre. Et puis, je me chantais, en fait, pour apprendre les textes, parce que j'étais hyper nulle. En comédie. Je me chantais les textes pour les apprendre dans ma tête et un jour j'allais à mon cours de théâtre et j'ai eu un accident de vélo contre une affiche de film et du coup bah, je pouvais plus marcher, je pouvais plus aller à mes cours de théâtre et du coup là je me suis dit bah, peut-être qu'il faut arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre et du coup je me suis mis à écrire des chansons en rentrant à la maison et à faire des petits trucs avec mon ordi.
Et j'ai vu que votre frère avait joué un rôle aussi dans les premières chansons et dans la composition, peut-être un peu.
Bah, pour marquer, faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la passe. Voilà. Donc j'ai trouvé le meilleur joueur, le meilleur allié.
Et vous continuez de travailler avec lui ?
Oui.
Vous continuez d'écrire des chansons ensemble ?
Oui, et puis il est avec moi sur scène.
Il est avec vous sur scène.
Ouais.
C'est lui qui est à la batterie aussi, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On n'est que deux. D'accord. On a un binôme, donc voilà.
Et donc, en fait, vous avez construit finalement ce... Alors, est-ce qu'on peut parler d'un personnage avec Felicita ?
Bah non, parce que...
C'est vous, quoi.
Bah, je me lève et je suis Felicita, et puis je me couche et puis je suis Felicita, quoi. Donc, c'est... On raconte... Je raconte ce que je vis.
En quoi est-ce qu'on porte un regard peut-être différent quand on vient du Sud plutôt que du Nord, d'après vous ?
Ouh ! Alors ça, c'est une bonne question. Je réfléchis, je prends un peu le temps.
On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le côté un peu douceur de vivre, le couteur...
C'est que dans le Sud, on est tous dehors. On vit tous dehors, tout le monde se mélange, tout le monde mange, tout le monde fait la fête, il y a du bruit. Et c'est la relation entre l'action et la contemplation qui est vraiment différente. et le vivre ensemble. Mmh. Et ça, c'est magnifique. On se regarde. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. C'est cool, on est lassif. Et puis quand d'un coup, hop là, c'est l'excitation générale, tout le monde s'allume et tout le monde vibre ensemble.
C'est ça aussi que vous racontez un peu dans vos chansons.
Oui, bah, je pense que c'est quelque chose que... Au bord de la Méditerranée, j'ai eu la chance de pratiquer chaque jour, naturellement. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, du coup, bah, il faisait tout froid, quoi. Mmh. Donc, c'était important pour moi de réchauffer un peu les cœurs à partir de Bordeaux, du coup.
Mmh. Et on parlait de vitesse et de contemplation, justement. Vous parlez, ça parle de ça aussi dans votre bio, de vitesse et de contemplation. On parle de la fast life et en face de la contemplation qu'on devrait s'offrir. C'est, oui. C'est important, ça, de savoir s'arrêter, de freiner un petit peu le grand mouvement en avant là, qui nous emmène tous très vite vers on ne sait quoi, d'ailleurs.
On court tous après quelque chose. Mais, les gars, moi, j'aime bien me pimper et sortir en boîte et danser comme une folle et vivre ma meilleure life du week-end. Mais j'adore faire une soirée Netflix en jogging, quoi. Mmh. Et à un moment, je sais pas vous, les gars, là, dans la salle, mais je crois que c'est un peu tous le cas.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, ceci en faisant rien qu'on a des idées. Donc ça... En plus, à Paris, on est pris dans ce roulement collectif qui va vite, 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 très vite. Mais des fois, juste, oh là là, rien faire très fort, c'est tellement agréable. Voilà.
Il y a une certaine langueur, il y a une sensualité aussi que vous mettez en avant.
Nous, on transpire. La musique, c'est danser. Mmh. La musique, c'est vibrer, c'est bouger. Donc forcément que la peau et le corps, bah, ils sont là, quoi. Et puis même chanter, c'est quand même vibrer de la gorge et faire résonner sa tête et ses yeux.
Et donc ça, c'est un rapport avec la sensualité directement?
Bah, je pense, ouais.
Ouais.
Ouais, et puis même le batteur sur scène, il fait des grands mouvements et tout. Il est beau.
J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine.
Alors pourquoi Dutronc, j'aime les filles? Bah parce que vous avez, vous c'est plutôt j'aime les gars.
Oui.
Clin d'œil donc à Dutronc, une chanson qui date de 67. On évoquait Dalida dans votre bio, on convoque la nouvelle vague, les danses de Brigitte Bardot, la sensualité des filles en toute liberté, une certaine légèreté. D'ailleurs elle est super bien écrite votre bio.
Merci.
Qui c'est qui l'a écrite, vous savez ou pas?
C'est une dame super. Une dame super, mais en plus, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais c'était une rencontre, on a bu un café ensemble et elle est née à Grasse.
Ah ouais.
Elle est née à Grasse.
Elle a saisi
le
truc, quoi.
Ouais, dans la ville des parfums et on s'est rencontrés au milieu de Paris, il faisait très froid. Et je pense que, bah, on s'est connectés, quoi.
Mmh. Du coup, vous êtes parlé et vous lui avez raconté deux, trois trucs et à partir de ça...
Exactement.
Elle a écrit cette bio.
Ouais.
Elle a écouté un peu, j'imagine, aussi,
c'était,
ce que vous faites.
C'était pas très scolaire, c'était super naturel. Mm. C'était très, très vif, très doux en même temps. Elle a senti le truc, quoi. Puis aussi, je pense, quand on se rend compte physiquement, de voir les corps, de voir comment les gens bougent, la posture qu'ils adoptent, on sent les choses. Mmh. Donc c'était super.
Et alors cet album, alors, est-ce qu'il y a un album qui arrive? Parce que pour le moment, on n'a pas encore grand-chose à se mettre sous le coude. Hein.
Là, c'est super mystérieux. Alors pour l'instant, on a fait quelques dates. Notamment, là, on a suivi Izia là, sur sa tournée.
Ouais.
C'était génial, merci beaucoup. Et on va sortir un titre là après les vacances de Noël pour se réchauffer un peu pour le printemps. Et on est en train de préparer un petit clip pour saupoudrer tout ça, quoi. Mettre
d'accord.
En image.
Ça, c'est les prochaines choses qui arriveront donc.
Oui.
On démarre vite. Tranquillement, crescendo, quoi.
On démarre tranquillement. Cool, on se rejoint dans le sud, on danse ensemble, on fait quelques concerts et on envoie l'album direct après.
Il y a une forme de nostalgie un peu, on parle beaucoup de la nouvelle vague aussi, cette période peut-être là où il y avait beaucoup de liberté, où tout était possible, enfin on en parle beaucoup, beaucoup en tout cas dans cette bio. Il y a une sorte de nostalgie d'un monde un peu perdu ou pas dans ce que vous chantez?
Non, c'est pas une nostalgie d'un monde perdu. Moi, je suis très contente de vivre dans cette époque, qu'on soit en 2020 tous ensemble. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui ont été faites. Il reste encore plein de choses à faire. Et c'est juste que bah, la comédie d'aventure, quoi. C'est trop génial, c'est trop kiffant. Et cette manière de se projeter, de vivre un peu la vie, bah, elle me plaît.
D'ailleurs, j'ai vu une étude menée sur les personnages de 18 films de la Nouvelle Vague qui présentent ces personnages comme ça. Beaux, jeunes, modernes, en quête d'indépendance, souvent oisifs, qui n'ont pas peur d'enfreindre la loi, indifférents à la société, à la famille et en quête d'amour. Vous y voyez un lien avec ce que vous êtes un peu ?
Ah bah oui, complètement. Complètement, mais je sais que tu es allé sur Wikipédia, c'est faire vrai. Ta petite recherche, taper Nouvelle Vague.
Ouais.
Ouais. Bah, quand même, les jeunes de cette époque, les gars, ils se posent un peu les mêmes questions que nous aujourd'hui, quoi. C'est juste que peut-être à cette époque-là, on n'en parlait pas de la même manière dans les chansons. Et du coup, bah, c'est super qu'en 2020, on puisse s'inspirer de tout ça et voilà, quoi.
Bon, merci Félixita. On attend Félixita, pardon, et on attend la suite avec impatience. Merci d'être venu ici.
Yes, merci beaucoup les Rouennais.
À bientôt. À bientôt.
Droit dans les yeux, il me dit faux.
Les gars de Pépite.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Donc deux gars, Eddie et Thomas, vous êtes avec d'autres musiciens sur scène avec vous.
On est cinq.
Paul et les deux Nicolas.
Paul et les deux Nicolas qui sont donc restés dans les loges. Donc je l'ai dit ça, l'un est moustachu, l'autre pas. Non, je ne l'avais pas dit encore.
Non. C'est interchangeable.
Mais parfois, ouais, il a une moustache, parfois j'en ai pas.
Mais c'est jamais les deux en même temps.
C'est non. Assez rare.
Ouais, c'est ça. Bah c'est pour pas qu'on vous confonde, quoi.
Effectivement.
Il nous parle d'amour et de naufrage avec un album intitulé Virage. La rencontre s'est faite sur une plage de Bretagne grâce à un ami commun. Vous avez joué au foot et vous avez chanté les Strokes. Last night, she said... ça, c'est la base de ce que vous êtes, on va dire ça, quoi.
Ouais, bah ouais. C'est vrai que ce morceau, ouais. Pour le coup, ça nous réunit pas mal. Enfin, je pense que c'est tous les deux un peu par ce morceau qu'on est
venu au rock'n'roll et ce genre de musique. Mmh. Et après, c'est vrai, par contre, pour la précision, c'était des morceaux de Julian Casablancas de son album solo.
C'était Out of
Blue. Ah, c'était pas les Strokes, alors c'était après.
C'était le chanteur des Strokes, mais c'est c'est vrai que c'est pas mal. C'est quand même, on est proche.
Ouais, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. D'où est-ce que vous venez tous les deux, en fait?
Nous, on vient de banlieue parisienne.
Ouais.
Moi, j'ai grandi à Clamart.
Et musicalement, la première guitare, alors pour Edouard, c'est 12 ans, et un premier groupe, les Rolls pour Thomas, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Bien formé.
Et comment est-ce que ça se forme chez vous, cette histoire de musique? Comment est-ce que ça se construit? Comment est-ce que vous en arrivez à faire pépite à un moment donné?
Je pense que tout d'abord, on a commencé parce qu'on était banlieusards et qu'on s'ennuyait un petit peu. Parce que quand on a 14 ans, on n'a pas trop le droit d'aller dans... Enfin, on n'a pas trop le droit, on ne va pas trop dans Paris... Voilà, on est jeune et donc on s'ennuie, donc on se dit ben pourquoi on ne ferait pas de la musique. Donc voilà, il y a un copain qui prend une batterie, une guitare, machin. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé tous les deux, je pense. Et puis ensuite, c'est un peu des chemins en fait croisés. On n'était pas loin géographiquement et on a tous eu un peu une sorte de parcours musical qui nous a emmenés dans différents endroits. Et puis voilà, il y a eu cette rencontre en Bretagne qui nous a réunis.
Pourtant, on était pas loin en banlieue, quoi, mais il a fallu qu'on aille en Bretagne tous les deux pour...
Exactement.
Vraiment se rencontrer.
Alors oui, c'était le destin, quoi.
C'est pas loin d'être le destin, ouais. Exactement. Ouais.
Sur une plage de Bretagne, c'était quelle plage, vous vous souvenez?
Sable d'Or, les Pins.
Sable d'Or, les Pins.
Il y avait un paysage particulier,
c'est
il y avait
une très grande
un
plage,
contexte particulier.
C'est on faisait un foot, en tout cas.
Ouais.
On faisait un foot, et moi, je suis pas du tout foot, voire sport. Et du coup, je me suis blessé, je me suis un peu ouvert le tibia, j'ai toujours des séquelles, carrément. Mais bon, du coup, c'est pour ça, j'étais sur le banc des remplaçants, au bord de la mer, et Thomas... est venu chanter avec moi, Juliane.
En écoutant les premières notes de Flèche, le premier morceau de l'album, j'ai pensé tout de suite à un de nos crooners période yé-yé. Je sais que vous le citez de temps en temps, et ce n'est pas sans rappeler aussi une certaine moustache d'ailleurs.
Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer.
Alors on aurait pu écouter Aline sur la plage du coup aussi, hein,
bien
presque.
Sûr, bien sûr.
Les instants fragiles de Christophe, ce sont aussi un peu les vôtres ou pas?
Ah bien sûr, moi j'ai toujours beaucoup aimé sa musique et puis ce qu'il avait apporté dans le son, notamment avec Jean-Michel Jarre, avec leur collaboration comme Les Mots Bleus.
Ouais.
Et moi j'ai adoré ses albums des années 70, tout ça, je trouvais ça très, très agréable justement de mélanger un peu ses musiques un peu expérimentales, un peu anglo-saxonnes avec de la vraie chanson. Je pense que c'est peut-être un des premiers à l'avoir fait de manière avec goût, je pense.
Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il a continué à avancer, à expérimenter, qu'il continue à le faire, qu'il est devenu une sorte d'icône pour les gens branchés presque, et pour de nombreux musiciens encore aujourd'hui, mais même parmi les plus jeunes. Et il est toujours dans cette forme d'expérimentation avec beaucoup plus d'électro aujourd'hui.
Ouais, il est
dans
très, très jeune dans sa tête, j'ai l'impression encore. Ouais. Il aime bien... Enfin, je rencontre souvent des musiciens qui me disent qu'ils ont passé une après-midi avec Christophe juste à bidouiller des synthés. Respect, quoi, d'avoir une ouverture d'esprit comme ça encore.
Du coup, même dans ce qu'il fait aujourd'hui, ça vous parle encore ou...
Ah, Les Vestiges du Chaos, c'était un super album.
C'était cool.
Des belles chansons.
C'était le grand retour, effectivement, de Christophe.
C'est cool. Après, moi, j'ai adoré le disque. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme succès commercial, mais moi, j'adore. C'est un peu toujours comme ça. Avec Christophe, on ne sait jamais si ces disques marchent, marchent pas. Mais il y a toujours, à l'intérieur des disques, il y a toujours une ou deux. Un super titre, quoi, ou deux, trois super titres, des choses.
Je crois que c'est le premier de l'album, il est dingue, quoi. Une espèce de grand cœur dans l'autotune derrière. Enfin, j'adore comment il utilisait l'autotune sur cet album.
Voilà. Donc, ça reste un modèle, le pape de la pop sentiment expérimental.
C'est un modèle
à la fin,
on a aussi d'autres gens, hein. on parle beaucoup de Christophe parce que je pense qu'il y a aussi un peu peut-être quelque chose vocalement qui se ressemble.
Ouais,
c'est vrai que nous, on adore Christophe, mais il n'y a pas que ça non plus. Mais on l'aime beaucoup.
Vous avez dit que vous avez beaucoup appris avec Pépite. C'est-à-dire que vous avez appris quoi? Tout ce qu'on peut apprendre
Le métier de la musique.
Ouais,
quoi, Faire un album, faire une tournée.
Faire une chanson même.
Faire une chanson,
Ça existe depuis combien de temps, Pépite?
2015, ouais. Donc là, on va arriver sur... ça va faire presque 5 ans bientôt, d'ici quelques mois.
On est peut-être aussi sur certains titres dans ce qu'on appelle le crew versaillais de la French Touch. Je pense à R, Étienne de Crécy ou Phoenix.
Okay,
C'est aussi ça, une scène d'ailleurs qui revendique aussi des accointances avec Christophe. Hein. Les Daft Punk, je crois, a pas mal frayé avec Christophe. C'est cette scène-là, ça fait partie aussi de...
Ouais, carrément, grave. Bah, Daft Punk, Phoenix, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Quoi. Un peu moins R, mais j'adore.
Moi, je suis fan de R+, mais j'aime aussi les deux autres groupes. Mais c'est vrai qu'Edouard, ouais, t'avais vraiment beaucoup aimé ça, surtout Phoenix et tout, c'est un truc...
Ouais, Phoenix, bah, c'est ça qui est super, quoi, c'est qu'on a eu la chance après, pour l'album qu'on a sorti, on a travaillé avec Pierrick Devin, qui avait coproduit et mixé le dernier Phoenix, donc on était honorés de pouvoir travailler avec lui. Et, mais ouais, ouais, c'est vrai que Phoenix, c'est une belle obsession depuis... peut-être pas le premier album, enfin si, remarque, j'étais tout petit, je me rappelle du clip If I Ever Feel Better, quand j'étais petit, mais j'adore, ouais, comment chaque album, c'est très... C'est très différent en fait. Quoi. Et le premier coup, est très what the fuck, le deuxième est très R&B.
Et du coup, se retrouver avec un producteur qui a travaillé avec eux, c'est quoi? C'est galvanisant? Ça, on est à l'écoute de vraiment de ce. Comment ça s'est passé?
C'est un ami à la base. D'accord. En vrai, donc après, c'était le petit plus quoi, qui faisait vraiment plaisir. Mais non, on pense pas à ça pendant qu'on fait l'album vraiment. On essayait d'avoir notre son et justement c'était un peu voilà,
mais
essayer
de trouver un après truc je pense que ce qui est agréable dans ces groupes là aussi c'est la voilà toute la minutie qu'ils ont en fait sur les arrangements, l'enregistrement, et ça c'est quelque chose qui est très important pour la musique française. Et je pense que si on est musicien en France, peu importe le style, je pense qu'on peut que aimer ce groupe là et cette French Touch, surtout de cette époque là des années 2000-2010, parce qu'ils ont apporté je pense énormément de choses, surtout dans le son, qui est indéniablement une référence pour tout le monde, je pense.
Tous ceux qui s'intéressent un peu au mixage en 2009-2010 ont pris une belle claque, quoi, je pense.
Et puis alors, comme pour Félixita, par moment, il y a cette ambiance un peu sépia, un peu couverture de magazine People, un peu champagne Côte d'Azur. C'est une ambiance que vous connaissez ou que vous fantasmez?
Pas du tout. Moi, je pense que j'en parle de manière... j'en parle comme quand je l'ai vu dans les films. Il n'y a pas de... Je ne connais pas trop ça, non, non. Et puis Champagne, c'est... pour revenir sur Champagne, c'est une chanson... ça ne parle pas vraiment de Champagne. Non. Ça parle surtout de défaites assumées dans le Champagne.
On parle de défaites amoureuses aussi. Ouais, enfin, voilà, en fait, tout part, j'ai l'impression, pour ce projet, dans ce que vous avez voulu raconter, tout part d'une déception amoureuse, d'un amour qui prend fin, et vous êtes parti de là. Quoi.
Au tout départ, ouais, c'était ça. Après,
mais ça imprègne encore les chansons de l'album.
Ça imprègne forcément. Encore les chansons, oui. Et puis après, c'est une certaine nostalgie. Je pense qu'on ne se refait pas, malheureusement. Et donc, c'est vrai que cette nostalgie, dans les paroles et dans la musique, j'essaie de l'apporter. Parce que, mais après, ce que je disais, c'est que ce n'est pas quelque chose de triste. C'est plus un retour, un coup dans le rétroviseur. Mais il n'y a pas de véritable tristesse derrière. C'est plus juste se rappeler des choses comme elles ont été. Et puis, ce n'est pas grave si elles ne le sont plus. C'est la vie.
Comment est-ce que vous partagez le travail tous les deux?
Ça change tout le temps.
Ouais, effectivement.
Bah, c'est vrai que le début, le premier EP, c'était vraiment Thomas composer une chanson, synthé, voix, et il m'apportait ça au studio. Et moi, bah, super, c'est un essence sur lequel pour faire fonctionner mon studio, quoi, où je m'amuse, ça se transforme en laboratoire, j'essaye plein d'arrangements, après je fais écouter. Voilà. Mais au fur et à mesure, ça se mélange pas mal, les postes, quoi.
Et le studio, ça a l'air d'être un endroit important, en tout cas pour vous.
Ouais, j'ai de la chance. J'ai toujours un studio dans une cabane au fond du jardin de chez ma mère. Et donc, j'ai grande joie de pouvoir passer autant de temps que je veux là-bas, faire autant de bruit. Et ouais, c'est fou. Je vois pas le temps passer là-dedans. C'est une occupation... Super.
Une dernière question. J'ai vu que vous fréquentiez des studios en Normandie il y a quelques années de ça même.
Oui, on y est allé au mois de septembre.
Ouais. Donc, c'est dans l'heure, c'est ça Alain Vite,
ouais, c'est à Gisors, à côté de Gisors.
À côté de Gisors. Ouais, voilà. D'accord.
Et bah, donc, c'est là on a enregistré les batteries des deux EP et des voix aussi. Et du coup, on a grave sympathisé avec ce monsieur qui s'appelle Alain Vite. Et il a mixé aussi le premier EP. Et du coup, ouais, on est allé chez lui pour commencer quelque chose d'autre, peut-être.
C'est un endroit particulier
Ouais, c'est super. C'est une petite maison avec un... En fait, ce qui est bien, c'est que le studio est un peu dans une sorte de grange, donc il est très grand. Et c'est un endroit où on se sent bien, on connaît bien Alain, qui est super cool. Et puis c'est très détente, c'est très fait. Et puis la Normandie est très belle, donc c'est toujours agréable
de venir s'y reposer. C'est une belle colonie de vacances, quoi.
Exactement.
Et vous le disiez, il y a des choses qui sont en préparation déjà pour la suite.
Exactement.
Ouais. Ouais, c'est les balbutiements, ouais. On est à fond.
Bon,
ouais.
Très bien.
À fond pour le deuxième.
Merci à tous les deux d'être venus.
Merci, Pépine, merci. Merci. Ouais. Merci.
Ici au 106.
Radio Lomax touche à sa fin. Les concerts au 106 n'ont pas encore repris. Le prochain concert, ce sera Pomme et Pauline Hamel le mercredi 15 janvier. Mais le 106 réouvre ses portes dès le samedi 11 janvier avec son festival des arts numériques, le Setup Festival. Animation, conférences, une expo, des jams, des ateliers. Le festival a donc lieu le samedi et dès le lendemain, dimanche, l'exposition est accessible gratuitement et ce jusqu'au 22 février. Radio Lomax, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine.
Si tu rêves de côtes d'azur, les voilà les voitures noires en rasant la corniche. Je crois que j'étais triste. Allumer le rocher.